Alleluia, alleluia. Alléluia, alléluia. Aide-moi à accueillir celui qui est à ta gauche et à ta droite et dites à lui, bienvenue dans la présence de Dieu pour l'écoute de la parole. Dites-le avec sourire, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux qui nous donne encore une fois nouveau dans sa présence. Disons merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour avoir fait ce choix de pouvoir venir vous recueillir dans ce sanctuaire afin de vaquer à la prière parce que cela, c'est un impératif pour moi, un impératif pour vous. Et nous disons bienvenue à tout et chacun de nous. Amen. Je bénis encore une fois mon papa, mon père. Merci, notre président. Merci sincèrement, papa, pour votre présence ainsi que votre humilité. Merci, je suis très gracieux de partager cette chair avec vous et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous donne. Merci à notre cher pasteur pour cette marque de confiance parce qu'il y a plein de serviteurs dans cette ville, mais poussés par l'Esprit, obéissant à la voix de Dieu, a créé cet appel que nous soyons assemblés pour partager la parole de Dieu. Merci aussi à tous les collaborateurs et merci à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous continuons donc notre enseignement, notre partage dans ces moments spécifiques, ces moments de prière. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je vais prendre deux portions d'écriture. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du 8e verset au 10e. Ensuite, je vais prendre 2 Samuel chapitre 9 à partir du 1er verset au 13e. L'épître de Paul aux Corinthiens chapitre 12 du 8e au 10e. Si nous sommes déjà là, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parole de Dieu. Notre deuxième portion d'écriture, 2 Samuel, nous prenons le 9e chapitre à partir du 1er verset au 13e. La parole de Dieu déclare, 2 Samuel chapitre 9, le 1er verset au 13e, David dit, « Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, qui le fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'aisse vers lui de la bonté de Dieu ?» Soulignez bien, de la bonté de Dieu. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David la voya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le 6e verset, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Alléluia. Car je vais te faire du bien. À cause de qui? À cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute la terre de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours, soulignez bien toujours, à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le terre, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Alléluia. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de deux pieds. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. La prière nourrit par la grâce suffisante de Dieu. Alléluia. La prière nourrit par la grâce suffisante de Dieu. J'ai même déjà envie de le dire d'emblée, si la prière n'est pas nourrie par la grâce, alors cette prière, elle est nourrie par les efforts personnels. Alors cette prière, elle est nourrie par la loi. Si la prière ne puise pas dans la grâce, cette reconnaissance-là de la faveur de Dieu, alors cette prière serait en train d'épuiser à l'autre bord, à l'autre extrême, l'extrême de la loi, l'extrême des efforts personnels. Je lève ma main droite et dis haut de ce cher que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas mauvaise chose que de travailler seulement avec ses efforts dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas pire chose que de travailler par ses propres efforts. Et vous savez, l'œuvre de Dieu devient comme une corvée. Voilà pourquoi ce qui était lourd, Dieu est venu assouplir ça par la révélation du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Lui qui a porté notre fardeau, ce que nous n'étions pas capables de faire, il l'a fait. Alléluia. Des portes auxquelles nous n'avions pas accès, il a ouvert la porte et il a balisé la route. Alléluia. Et je suis venu lasser l'appel, déjà cette introduction, qu'il est temps de saisir la grâce. C'est une chose de connaître des définitions sur la grâce. C'est une chose de connaître des théories sur la grâce. Et ce soir, je ne me donnerai pas ce luxe de vous bourrer des théories sur la grâce parce que vous en avez déjà. Mais je suis venu nous demander, s'il vous plaît, de pouvoir répondre à cette grâce. Alléluia. To say yes, to grace. J'essaie. Alléluia. Dire oui à la grâce de Dieu. Et c'est ce qui manque à plusieurs. C'est ce qui manque dans l'église de mon pays. On connaît la grâce. On sait prêcher par rapport à la grâce. Et à moins de dire, la grâce n'est pas une prédication. La grâce n'est pas théorique. Mais la grâce, c'est une personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. La grâce n'est pas effet qu'il faut chercher pour mériter, pour avoir la faveur de Dieu. Mais la grâce, c'est la personne de Christ, la parole faite chair. Et celui qui a rencontré Christ, il a la faveur divine. Alléluia. Que des gens qui sont dans la quête de la faveur divine. Et hier, là, je disais que nombreux veulent réussir à passer par des raccourcis. Mais il n'y a pas d'autre raccourci à faire pour réussir si nous ne tenons pas compte de la grâce de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre raccourci à emprunter que de passer par le chemin. Celui qui est le chemin, c'est Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous sommes rassemblés ici dans un moment de prière, mais je sais que notre prière, qui est une prière partagée, si j'ai des prières partagées, c'est que Seigneur, fais-nous grâce au courant de cette année, que nous puissions vivre autrement de la vie que nous avons menée, nous avons vécu l'année passée. Il y a des portes pour y avoir accès. Nous devons accepter de prendre la clé de la grâce. La deuxième des choses que j'aimerais placer comme base, c'est que la grâce est capable de te donner ce que les lois naturelles, ce que peut-être les diplômes, ce que le stratégie au privé. La grâce est capable de te les donner. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime la grâce. La grâce explose toutes les barrières. Je ne sais pas qu'est-ce qui entrave le développement de notre pays, qu'est-ce qui entrave la paix de notre pays. Mais à chaque fois qu'on se tourne vers la grâce, alors la grâce explose toutes les barrières. Et parmi le message mal compris dans l'église de mon pays, il y a la grâce. Il y a un débat beaucoup controversé par rapport quand on parle de la grâce. Il y a ceux qui ont compris la grâce comme étant une grâce de bon marché. Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, il nous donne accès aux promesses. Mais il y a ceux qui pensent que parce que Jésus-Christ a payé les prix, alors nous n'avons plus de prix à payer. Parce que la grâce a rendu des choses disponibles, nous n'avons plus de prix à payer. Et comme lecteur de la parole de Dieu, pratiquant de la parole de Dieu, je reviens à Marc, où Jésus-Christ est en train de dire aux disciples que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Bien-aimé, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de partenariat. Dieu a promis, accompli ses promesses dans nos vies, mais ce même Dieu, il nous appelle à pouvoir travailler, à compter sur lui, à compter sur son secours. Et donc, chers intercesseurs, nous avons déjà la grâce, mais nous devons nous rassurer que nous payons aussi le prix pour marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Tite va proposer un bémol en disant, la grâce ne nous autorise pas à faire tout ce qui passe, traverse nos esprits. Mais cette grâce-là, c'est une pédagogue. Elle nous apprend à renoncer à tous les mal. Alléluia. Ce n'est pas parce que la grâce est déjà disponible, nous devons nous conduire comme nous le voulons. Et Paul en parle suffisamment. Demeurerions-nous dans les péchés? Est-ce qu'il faut continuer à faire le péché parce que, pour que la grâce s'y rabonde? Il dit, loin de là. Alléluia. Et il y a plusieurs doctrines qui ont puisé dans l'ignorance, une mauvaise interprétation de la grâce, au parce que la grâce nous autorise à faire tout ce que nous voulons. Bien-aimés, on ne peut pas servir Dieu sans respecter les interdits. Vous ne pouvez pas servir Dieu ça, respecter les interdits. Parce qu'à chaque fois que Dieu appelle son peuple à vaquer à la prière, à faire culte à son honneur, il donne les modèles du culte. Nous sommes ensemble. Alléluia. Chaque fois que Dieu appelle son peuple à vaquer à la prière et à l'adorer, il donne les modèles de cette adoration. Et voici ce que tu vas prendre et voici ce que tu vas faire. Alléluia. Parce que nous ne servons pas Dieu selon notre nature, mais nous servons Dieu selon sa nature. Voilà pourquoi Jean chapitre 4, la parole de Dieu déclare que l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité pour rejoindre la nature de Dieu parce qu'il est esprit. Alléluia. La grâce doit nous ramener là-bas, nous ramener à tenir compte de la nature de Dieu. Ce que nous avons reçu par la grâce en Jésus-Christ, cela implique que nous devons marcher dans la grâce pour demeurer attachés à Dieu. Ce que nous avons reçu par la grâce en Jésus-Christ, cela c'est un appel pour chacun de nous de pouvoir rester attaché à Dieu. Et dans le monde spirituel, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de gratuité. Parce qu'il y a ceux qui ont compris la grâce comme étant la gratuité. Les Congolais, nous aimons la gratuité. On aime ce genre de concept, la gratuité. Mais quand vous revenez dans le domaine de Dieu, vous devez apprendre à vous charger de votre croix. Vous devez apprendre à renoncer à vous-même et à suivre Dieu selon son modèle. Alléluia. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas avoir si tu ne payes pas le prix tout en étant dans la grâce. Je suis en train de placer les bases pour que nous puissions comprendre le texte que nous allons exploiter. Les domaines spirituels, sataniques ou les domaines des dieux divins, ces deux domaines-là exigent des sacrifices et prix à payer. Il n'y a pas de gratuité. Et les chrétiens, ils ont mal compris la grâce. On veut réussir sa vie, sa travail. On veut réussir sa spiritualité, sa vie chrétienne, mais sa travail. Et nous voulons entrer à Cana, sans passer par le désert. Mais Dieu, il dit, le désert, c'est un passage obligatoire, obligé. Parce qu'il veut travailler notre caractère. Alléluia. Et il veut se révéler encore à nous. Voilà pourquoi nous devons être prêt à payer le prix, à travailler avec les méthodes de Dieu, tout en reconnaissant la grâce. Une faveur imméritée, mais qui appelle au travail. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire des portions d'écriture. Nous venons de lire la parole de Dieu dans ce livre de 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier verset où on nous relate la vie d'un jeune homme qu'on appelle Mephibosheth. Et Mephibosheth, rappelons que c'est le fils de Jonathan qui est le fils de Saül. Vous rappelez, bien-aimés, frères et sœurs, lecteurs de la parole de Dieu, que Jonathan, il a rencontré l'homme de Dieu qu'on appelle David. Pendant que David était pourchassé par le père de Jonathan, donc Saül, alors Jonathan a eu la révélation de savoir que même si c'est moi l'héritier légal, mais celui-ci, il est habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne ce genre de révélation pour prendre de bonnes résolutions dans des moments compliqués. Jonathan a eu une grâce spéciale dans ces moments critiques, un moment de la guerre, où son père est en train de pourchasser les ouais de Dieu. Parce que David avait déjà reçu l'onction derrière les brebis. Vous savez, l'onction ne dépend pas de là où tu viens, mais l'onction dépend de la grâce de Dieu. Parce que l'onction ne porte pas notre âge, l'onction porte l'âge de celui qui la donne. Et celui qui la donne, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je parle la langue. Amen. Bien-aimé Jonathan, qui a eu à contracter l'alliance avec l'homme de Dieu, et dit, c'est moi l'héritier légal, mais j'accepte que ce soit toi qui règne sur Israël. J'accepte que ce soit toi qui règne sur Israël. Parce que après la mort de Saül, normalement, vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec les normalement, avec la logique des hommes. Dieu fonctionne avec la grâce, parce qu'il est la grâce. Normalement, c'est moi, Jonathan, qui serai l'héritier. Après la mort de mon père, c'est son fils qui doit hériter le trône. Mais Jonathan dit, je reconnais la grâce sur ta vie. Que Dieu nous donne déjà qui sont capables de reconnaître la grâce sur le ministère des autres personnes. Nous vivons dans une génération où l'égocentrisme prime sur toute autre chose. Les gens sont avares, les gens sont remplis d'eux-mêmes. On ne veut plus faire confiance à une autre personne. C'est ce que les psychologues appellent une surestimation, estime de soi supérieure. Et Jonathan qui se dit, je dois me rabaisser pour que l'autre ait la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la portion d'écriture où nous venons de lire, écoutez le premier verset, la parole de Dieu déclare, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. Alléluia. Cher papa, chère maman, les biais que tu fais à d'autres personnes, ces biais-là, tu vas consommer des conséquences plus tard. Que ce soit des conséquences positives, des conséquences négatives, tu vas à consommer des conséquences. Et je prie que nous posions des bons actes parce que nous allons récolter. Alléluia. David qui pose la question dans l'assemblée, et on va lui dire, il en reste encore une personne. Je pensais que cette personne-là serait taillée à quatre épingles, que cette personne-là remplissait les critères, les critériums. Dieu ne fonctionne pas parfois dans les critères. Parfois, il verse la formule et il vous amène son plat. Vous pouvez choisir Saül, il vous amène l'homme selon son cœur. Parce que le peuple a toujours son choix. Mais Dieu dit, mes passés ne sont pas vos passés. Je réfléchis de ma manière, non pas de votre. Quand on va amener Mephibosheth, c'est là que je nous amène à lire pour comprendre qui est Mephibosheth. Je vais nous demander de lire 2 Samuel chapitre 4. Le quatrième verset, la parole de Dieu déclare, 2 Samuel chapitre 4, le quatrième verset, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jisréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice les prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était comment? Mephibosheth. Est-ce que vous pouvez le dire encore à haute voix? Son nom était qui, s'il vous plaît? Mephibosheth. Pendant la mort de son grand-père, pendant la mort de son père, il va connaître un accident. Tous les deux pieds sont perclus. Et c'est celui-là qu'on va amener à David, que voici l'héritier. Voici celui qui reste dans la maison de Saül, dans la maison de Jonathan. Et celui-là qui va hériter l'alliance, les promesses, l'accomplissement de l'alliance entre Jonathan et David. Ce que j'aime est que notre Dieu, c'est Dieu de réserve. Alléluia. Toute la famille de Jonathan, de Saïd, n'a pas été exterminée, mais il y a eu une réserve. Parce que Dieu, c'est Dieu de la réserve. Wandugu wapenzi ya tout Aisha. J'ai même envie de le dire à basse voix. Il y aura toujours une réserve. Alléluia. Et le fait que tu es ici aujourd'hui, ça prouve combien de fois tu es parmi cette réserve-là. Je viens parler à une Mephibosette qui est assise à ce lieu. Je viens parler à un Mephibosette qui est à ce lieu. Tu as eu la grâce de Dieu. Et cela me donne le droit de te dire, ne regarde plus du côté de tes faiblesses, mais regarde dorénavant du côté de la grâce. Alléluia. Oui, tu reviens dans la nouvelle année 2026 avec des pieds perclus. Le travail est déjà ruiné. Dieu, c'est Dieu de la réserve. Alléluia. Voilà pourquoi je nous ai demandé, avec la semence, petite soit-elle qu'il nous reste, nous devons encore apprendre à investir dans la présence de Dieu. Avec peu d'énergie qu'il nous reste, nous devons apprendre à être attachés à Dieu et dire, Seigneur, le peu de temps que j'ai encore cette année, je vais investir dans ta présence. Alléluia, alléluia. Et Jonathan, qui n'est plus David, qui va donner la promesse à Mephibosheth, que je vais rembourser tout ce que j'avais promis à ton père. Parce que nous avons lu à Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Il dit, « Tout ce que j'avais promis, tout ce qui était à ton père, je vais te les rembourser. Et je vais même te donner des serviteurs. Mais ça ne s'arrête pas là, tu vas commencer à manger sur ma table. Je sais que vous ne comprenez pas parce que vous êtes dans les critères. Mais un enfant comme Mephibosheth, ça c'était un miracle. Alléluia. Pourquoi? Parce que selon les lois juives, c'était interdit à un homme comme Mephibosheth avec handicap physique ou sensoriel de venir s'asseoir à la table du roi. C'était interdit. Mais ce qui est interdit par les hommes, il y a Dieu qui a les derniers mots. Alléluia. Il y a Dieu qui a les derniers mots sur nos vies. Nous nous soucions fort de ce que les hommes ont dit. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils se sont même empruntés des mots. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots à placer. Alléluia. Et tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, garde encore l'espérance. Parce que l'espérance, frères et sœurs, l'espérance meurt les derniers. Tout peut être détruit autour de toi, garde encore l'espérance. Je vais même aller plus loin. Même s'il faut mourir, comme il est dit, Meshach, Sadrach, Abednego, il dit, Seigneur, mon Seigneur, nous n'allons pas adorer ta statuette. Parce que notre Dieu va nous garder. Et j'aime les baies qu'ils ajoutent. Il dit, même s'il nous arrive d'entrer dans la fournaise, nous n'allons pas adorer. Même s'il peut arriver que nous entrions au cimetière, mourons avec l'espérance. Parce que cette espérance-là, Dieu va s'en servir pour nous faire asseoir à ses côtés. Mourez avec l'espérance. C'est un message fort. Parce que tu veux nous dire de mourir. Je crois que Dieu va nous garder. Mais s'il nous arrivait de mourir, mourons avec l'espérance. Alléluia. Ne perdons jamais l'espérance. Et hier, nous avons dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est le texte des Corinthiens, chapitre 12. Nous trouvons ici la vie d'un homme de Dieu, Saul. Dès qu'on était chapitre 12, la parole de Dieu déclare, « Trois fois j'ai prié le Seigneur, il éloignait de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. » Et j'aime ce qu'il ajoute, il dit, « Je me glorifierai, donc bien plus volontiers, non pas parce que je suis contraint ou poussé, de mes faiblesses. Comment tu peux dire que tu vas te glorifier de tes faiblesses? Je me glorifierai donc de mes faiblesses volontairement, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. C'est quand nous sommes faibles que Dieu manifeste sa toute-puissance. Dieu ne travaille pas avec les plus forts pour que leur force n'entrave pas la puissance de Dieu. Mais Dieu travaille avec les faibles pour que la gloire de Dieu soit manifeste. S'il travaille avec les plus intelligents, l'intelligent dira, c'est grâce à ma force, à mon intelligence. Non, que lui, on les connaît intelligents, c'est normal. Mais il part ramasser celui qui est faible dans la poussière. Et c'est celui-là qui va amener sur la table. Pour que l'on dise, ça ne vient pas de l'homme. Ça, c'est l'apanage de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je prie que cette grâce te localise. Alléluia. Une faveur divine qui te fait mériter là où les lois ont déclaré que tu ne mérites pas. Là où toi-même, tu te regardes et tu te dis, je ne mérite pas. Je suis venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas. Tu es venu accompagner qui? Il n'y a pas de brio. Tu dois vivre ta vie parce que Dieu te fait confiance. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un d'autre. Reste toi-même et vis ta vie selon la pensée de Dieu. Alléluia. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je cherche à être moi-même. Mais c'est moi-même là. Nous devons nous souvenir que tu ne peux pas vivre maintenant ta vie si tu ne reviens pas au modèle du deuxième homme. Là où le premier homme a échoué, il y a le deuxième homme qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. L'homme de Dieu qui a prié, il a vaqué à la prière, il pourrait guérir d'autres personnes. Il pourrait faire accomplir des miracles. Et quand il s'agit de sa vie, il y a encore un problème. Et il dit, je me glorifie de mes faiblesses. Et ce qui est toujours intriguant, c'est de réaliser que tu as mis cette épine dans sa vie, dans son corps, pour qu'il reste humble. Et ça me rappelle l'histoire de Jacob, Dieu qui va briser sa hache, pour le briser, pour qu'il reste attaché à Dieu. Il nous arrive de prier pour d'autres personnes, mais quand on regarde nos vies, on trouve qu'il y a aussi des problèmes. Il nous arrive de déclarer pour d'autres personnes, de prier, et Dieu accomplit de grandes choses dans leur vie. Mais quand on revient à nos propres vies, on trouve, mais bon, à où mon basi? Pourquoi il y a des problèmes dans sa vie? Je suis venu exhorter un intercesseur. Gardons confiance à Dieu, même dans nos faiblesses. Alléluia. Gardons confiance. Et Paul a eu cette révélation en disant, Dieu, il a mis cette épine, ce fardeau dans ma vie pour que je reste attaché à lui. Je reste humble. J'ai toujours réfléchi à la parole de Dieu et la vie d'une dame qu'on appelle Anne. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset suivant. Je rencontre une dame qu'on appelle Anne. Anne qui signifie la grâce. Mais Anne qui a fait tout cet état dans son foyer, mais problème qui s'introduit dans sa vie. Et vous savez, c'est très beau d'être complet de bénédictions. Mais s'il n'y a pas d'héritier ou de successeur, c'est un grand problème. Alors Anne, qui a été bénie avec son mari Elkan, et à ses côtés, nous voyons une autre dame qu'on appelle Pénine. Pénina qui signifie perle ou bijou. Je suis en train de prier pour les papas qui sont là, que Dieu guérisse nos yeux de ce qui est attrayant. Pénine qui signifie bijou. Mais cette Pénina, elle a déjà des enfants. Mais quand on regarde du côté de la grâce, celui qui est appelé âne, qui signifie grâce, on dit le nema ikowapi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans ce genre de tableau, de contexte, où toi-même tu es conscient qu'il y a la grâce de Dieu dans ta vie? Quand on a besoin qu'on te le prêche, tu sais qu'il y a la grâce de Dieu qui m'accompagne, la faveur imméritée. Mais quand nous voyons dans la praxis de la vie, on dirait la vie prêche et paradoxe. Je viens dire à une âne. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais peut-être que le problème n'est pas toujours du côté de Dieu, mais parfois de notre côté. Et vous savez, dans cette portion d'écriture, Anne va dire, ce qui est intriguant, que Dieu m'a rendu stérile. Ah, si le problème vient de Dieu, alors rentre chez le même Dieu pour qu'il apporte la solution. Alléluia. Mais ce que j'aime est que Dieu a le contrôle sur tous les cas possibles. Si ça vient de l'ennemi, parce que tous nos problèmes ne viennent pas inévitablement de Dieu. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu parce qu'ils se disent, mais si ce Dieu était capable, pourquoi nous traversons ce désert? Non. Parfois, tous nos problèmes ne viennent pas de Dieu. Il y a d'autres problèmes où c'est le diable qui est la source. Il y a d'autres problèmes où c'est nous-mêmes qui sommes la source. Et il y a d'autres problèmes où c'est la nature, l'environnement. Quelqu'un qui est allé dans une région où il y a la malaria, il contracte la malaria. Il va mettre ça sur les dos du diable. Voilà pourquoi il y a des intercesseurs qui voient les démons partout. Kwa china la Yesu Christ. Est-ce que tu en as la certitude que ceci vient du diable? Il ne faut pas mettre tout sur le dos de Dieu. Que non, si nous souffrons, c'est à cause de Dieu. Parce qu'il est Emmanuel, il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent. Si ceci nous arrive, donc, bien-aimé, il y a d'autres problèmes où nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Et si c'est toi, ton propre problème, je te donne la thérapie. La parole de Dieu déclare, souviens-toi de là où tu es tombé et reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Tous nos problèmes n'ont pas comme source Dieu. Anne dit, Dieu m'a rendu stérile parce que justement dans le passé juif, on pensait que si le malheur nous atteint, c'est Dieu. Ça, c'était alerta. Anne a décidé non pas de se focaliser du côté du problème, mais il a pris la résolution de dire, je vais monter au temple. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on se met à chercher le Dieu du temple, c'est Dieu se révèle à nous. Chaque fois qu'on revient à Dieu et dit, Seigneur, c'est toi qui as la solution, c'est toi qui es la solution. Dieu, il est toujours au rendez-vous. Amen. Les hommes peuvent ne pas te comprendre, mais il y a Dieu qui te comprend. Les hommes peuvent dire, tu es ivre. Vous savez, la souffrance sera ivre. Celui qui a déjà souffert, il sait que la souffrance sera ivre. Si je le disais à Swahili, ça serait merveilleux. Magumu, inafanya kamu tu kichwe inachanganyikiwa. Tu deviens comme quelqu'un qui est ivre. Ça, c'est la souffrance. Les gens ne te comprennent pas. Mais il y a Dieu qui te comprend. Alléluia. N'attends pas que tout le monde te comprenne dans ta souffrance. Tu seras déçu. Et ça n'arrive pas. Notre attente dans la souffrance, nous voulons que tout le monde puisse nous comprendre. Comprendre mon problème comme moi je le comprends. Ça n'arrivera pas. Parce que Bengi Nabakowe, ils ont leurs problèmes. Mais il y a Dieu qui nous comprend. Alléluia. Mais je vais être équilibré. Dans ta souffrance, c'est aussi maintenant, ne néglige pas les gens. Parce que quand le ciel sera ouvert, Dieu va utiliser le même genre-là, même s'ils ne comprennent pas. Dieu va les utiliser pour te bénir et pour ouvrir des portes, pour te porter à prière. Alléluia. Ne néglige pas les gens, parce que c'est le même sacrificateur au temps. Celui qui ne comprend pas peut-être la situation, qui va déclencher le miracle dans la vie de Mama A. Il dit, kumbe haiko vya pombe. Ewan, mungu kumbe akufanya nini. Mwai mwaka, alalane au moins comme celui-ci, que tu aies un enfant. Alléluia. Je me dis, si Mama Anne n'avait pas aussi honoré la grâce de Dieu sur le ministère du du sacrificateur Élie, qui n'avait plus l'Esprit de Dieu, il aurait problème, il serait rentré avec le même problème. Mais parce qu'il a dit, mon serviteur, ta servante, c'est pas que je suis ivre, mais c'est la douleur. Alléluia. Bien-aimé, notre souffrance peut nous rendre ivres, mais ayons confiance à Dieu et respectons les gens. Alléluia. Nous devons tisser des relations même dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a pas de héros solitaires. Tu as besoin des autres dans le désert pour que nous puissions passer à l'autre bord. Mais aussi, on ne peut pas réussir avec tout le monde. Il n'y a pas de héros solitaires dans le désert, mais tu dois aussi filtrer ton zone d'intimité, ton cercle d'intimité. On ne peut pas réussir seul, mais on a besoin des autres pour réussir. Voici, frères et sœurs, ce que nous devons retenir. La première des choses, quand nous parlons de la grâce, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sous-estiment la grâce. Il y a des gens qui croient qu'à eux-mêmes, on ne veut pas tenir compte du secours de Dieu, on ne veut pas tenir compte de la faveur de Dieu dans ce qu'on fait. On sous-estime la grâce. Et Dieu, dans sa nature, il ne révèle pas sa présence là où il n'est pas honoré. C'est là qu'il est honoré qu'il décide de manifester sa présence. La deuxième catégorie de personnes par rapport à la grâce, ce sont ceux qui survalorisent la grâce et oublient leur part de responsabilité. Nous avons déjà reçu la grâce, je reviens, mais la grâce nous appelle au travail. Alléluia. La grâce nous appelle à pouvoir conjuguer avec Dieu, parce que quand Dieu vient nous sauver, il nous sauve avec nous. Il a besoin de toi pour te sauver. Je sais que ça, c'est grave. Mais écoutez ceci. Dieu ne peut pas imposer le salut dans ta vie si tu ne dis pas oui. Parce que le salut, c'est un choix. Je dois choisir de donner ma vie à Christ. Voilà pourquoi en Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres pour moi, je ferai quoi? Vous attendez ces conditionnels-là. Si tu ouvres pour moi, j'entrerai. Même pour les salis, nous avons besoin de pouvoir aussi jouer notre partition et dire, Seigneur, je reconnais mes faiblesses et je suis prêt à te laisser travailler dans ma vie. Amen. Donc, nous devons tenir compte de la grâce, mais nous ne devons pas ignorer que nous avons un rôle à jouer pour que le salut soit effectif dans nos vies. La grâce, elle est déjà disponible, mais nous devons faire montre de la foi pour saisir cette grâce-là. J'aimerais que nous puissions retenir, bien-aimés frères et sœurs, que les hommes peuvent t'élever à une certaine dimension. Mais il faut apprendre à marcher avec Dieu, celui qui est capable de t'élever là où les hommes sont limités. Si tu t'appuies aux hommes, ils peuvent t'élever à leur dimension et à leur position. Mais il y a Dieu, quand il décide de nous élever, il nous élève à sa dimension. Je reconnais des gens qui se sont appuyés aux hommes. Mais être appuyé aux hommes, je nous ai demandé de valoriser les secours qui passent par les hommes, mais notre attention doit être focalisée à Dieu. Alléluia. Parce que la grâce, elle utilise ces hommes-là pour nous atteindre. Elle passe par eux pour nous atteindre. Et c'est dramatique de ne pas sentir la nécessité de la sanctification parce que nous sommes dans la grâce. Il y a des gens qui ont démissionné à la sanctification parce que nous sommes dans l'état de la grâce. On a démissionné à la sanctification. Et j'ai aimé notre communauté parce que nous avons fait ce retour-là à la vie de la sanctification avec les maudits des disciples-là. Alléluia. Pour que nous soyons des disciples qui sont à genoux, prosternés dans la présence de Dieu, reconnaissant la faveur de Dieu. Et cette faveur-là, cette grâce-là, doit nous appeler à rentrer vers la croix de Christ. C'est là que nous avons la grâce. Et nous avons dit qu'il y a des dimensions que nous ne pouvons atteindre maintenant si nous n'évacuons pas à la prière. Et cette prière-là doit tenir compte de la grâce de Dieu. Au-delà de nos efforts, nous devons nous rassurer, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous a fait grâce. Nous prions dans la grâce, nous prions à travailler, mais reconnaissons que celui qui rendra tout cela possible, c'est Dieu lui-même. Nous sommes debout, nous allons devoir prier pour que le Dieu qui nous a donné cette grâce, sur la croix, il a déclaré que tout est accompli, que tout est accompli, et c'est à chacun de nous approprier cette grâce-là. Il a déjà rendu la grâce disponible, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne vagues pas à la prière, si ta prière ne puise pas dans la grâce, reconnaître que même l'exaucement à ma prière, c'est la grâce de Dieu. Au-delà de mes efforts, mais il y a la grâce de Dieu qui couronne ce que j'ai fait dans sa présence. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, pas tout Seigneur, oui, pas tout Seigneur, pas tout Seigneur, oui, pas tout Seigneur, entre tes fermement du fond de mon cœur, qu'au travers ces moments de partage et d'exhortation, je crois que l'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur. Je ne vais pas te prêter des mots, mais je prie que le Dieu de la grâce, que tu puisses tenir compte de sa présence dans ta vie. Nous ne vivons pas parce que nous méritons, parce que nous remplissons des critères, mais nous vivons par la grâce de Dieu. Nos efforts ne suffisent pas et pourtant important. Mais nous avons besoin de reconnaître la grâce de Dieu. Bien-aimé, si tu as traversé pour l'année 2026, c'est parce que Dieu t'a accompagné. Ce n'est pas que tu es intelligent plus que les autres qui sont restés dans l'année 2025. Ce n'est pas que tu as été beaucoup stratège. Mais la parole de Dieu déclare Je fais grâce à qui je fais grâce. Et nous devons reconnaître que Dieu nous a fait grâce. Autant que Dieu a donné cette grâce à Mephibosheth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable aussi de te tirer de la poussière. Il est capable aussi de te visiter. Il n'a jamais changé. Apprends à reconnaître la grâce de Dieu et dire, Seigneur, je suis là. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix où tu m'as visité, où tu m'as donné accès à des choses qui étaient interdites pour moi. Selon les hommes, je ne mérite pas ceci. Selon les lois naturelles, je ne méritais pas ceci. Mais toi, tu viens ouvrir des portes. Voilà pourquoi le voile du temple a été déchiré pour que nous entrions dans le sanctuaire. Et dis, Seigneur, nous sommes là tels que nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Qu'importe votre état, le Seigneur est là pour nous accueillir. Veuillez que nous puissions tenir compte de la grâce dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, afin que aussi nous soyons capables de reconnaître la grâce des autres, afin que nous puissions aussi reconnaître que, oui, le Seigneur, il a donné à mon frère, à ma sœur la grâce, afin que nous puissions encourager les bien-aimés à nos côtés dans leurs moments de faiblesse, dans les moments de douleur, dans leurs larmes profondes, que nous soyons capables d'avoir cette révélation comme Jonathan et dire, je vais soutenir ce petit, je vais soutenir ce frère. Seigneur, fais-moi cette grâce, poussé par l'Esprit, de pouvoir soutenir les bien-aimés à mes côtés dans les moments difficiles. Seigneur Père, aide-nous, aide ton Église. C'est toi qui as les derniers mots à nos vies. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes. Nous allons prier aussi pour nos entreprises, dans nos moments de faiblesse, où les portes sont fermées, comme la famille de Jonathan a fermé des portes. La famille a fui la ville jusqu'à mourir. Mais le Dieu de la réserve, nous prions, nous allons prier que ce Dieu-là garde nos entreprises, que ce Dieu garde nos familles, que ce Dieu nous visite. J'aime ce que Manoah va dire, que cet ange qui nous a visités, qu'il revienne encore et qu'il visite nos familles, qu'il visite notre église, qu'il visite notre pays. Oui, c'est possible si nous y croyons. Seigneur Père, merci. Laisse que le miracle attaché à ta parole, que ce miracle ressuscite nos entreprises. Que le miracle, les signes et prodiges attachés à ta parole, que ce miracle nous accompagne. Personne n'est venu à toi et rentré tel qu'il est venu. Voulons, Seigneur Père, témoigner cette année, parce que c'est une année de témoignage, c'est une année de restauration. Tu es la résurrection. Même ce qui est déjà pourri, tu es capable de ressusciter. Alléluia. Je bénis, Seigneur, ton nom. Ta parole déclare, Seigneur, ton peuple est dans la détresse. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple, guérit ça ton peuple. Je viens, Seigneur, de proclamer cette parole comme une semence s'aimer dans ce moment difficile, dans ce moment terrifiant. Mais tu n'es pas absent, tu es au milieu de ton peuple. Toi, le Dieu de la grâce, je prie que tu ouvres les portes, Seigneur Père, pour ton peuple. Je prie que tu ouvres les églises des cieux, Seigneur, en faveur de ton peuple, en faveur de notre pays, en faveur, Seigneur Père, de nos familles, en faveur de notre église, en faveur de notre paroisse. Je laisse, Seigneur Père, que nous revenions dans ta présence avec des actions de grâce à ce que tu auras fait et accompli dans nos vies. Pour ta gloire, tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelqu'un acclame et acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. J'espère que chacun de nous vient de retenir quelque chose.